Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre magazine hebdomadaire Montpellier Ma Ville. Nous nous intéressons à une association locale qui, depuis 20 ans, œuvre chaque jour auprès des personnes en situation de handicap, des adolescents, des adultes qui relèvent de déficiences intellectuelles ou de troubles psychiques. Ce public accueilli est valorisé à travers la pratique d'activités sportives, culturelles et de loisirs en fonction de leurs capacités. Cette association n'est autre que la MCSA, Montpellier Culture Sport Adapté. Notre journaliste en charge des sports AFM+, Romain Sost, a rencontré le responsable de cette structure, Cyril André. Tout de suite, suivons cet entretien.
On développe de nombreuses activités sportives. Et ici, nous avons notre siège avec, là où nous sommes actuellement, une salle de pratique d'activité. Mais l'idée aujourd'hui, elle est de proposer des disciplines, dans la mesure du possible, en lien avec des clubs sportifs ordinaires, sur des installations sportives mises à disposition par les collectivités, donc que ce soit la ville de Montpellier, soit la métropole.
Donc en fonction des sports pratiqués, vous pouvez être amené à faire les activités à différents endroits dans la ville de Montpellier.
Oui, absolument. Il y a la natation, hein, qui est une des disciplines qui regroupe un grand nombre de participants, se fait à la piscine olympique Antigone, hein, dans laquelle la métropole nous met à disposition une ligne d'eau tous les lundis soirs. Ce qui permet à nos licenciés de pratiquer, de nager à côté des nageurs, des clubs tels que le MUC Natation ou autres. Voilà. Ça c'est un des exemples les plus intéressants, mais que ce soit pour le tennis, où nous avons un partenariat avec le tennis club de Saint-Clément-la-Rivière, la plupart des disciplines, voilà, on essaie de trouver des clubs sur qui nous appuyer parce que pratiquer c'est bien, mais pratiquer en lien avec un club ordinaire pour nos sportifs c'est quand même mieux.
Pour vous mettre en contact avec ces clubs, vous êtes des personnes, des salariés à travailler ici. Combien est-ce que vous êtes? Qui êtes-vous?
Alors bon, moi je suis le président de l'association. Président et fondateur, nous sommes un petit comité directeur composé de 6 personnes. Et l'association qui aujourd'hui, enfin l'année dernière, nous avons fêté les 20 ans, hein, le 20e anniversaire, donc ça commence à faire un petit peu, aujourd'hui dispose de plusieurs salariés, donc deux permanents, que l'on va appeler chargés de développement, ainsi que 3 salariés qui, eux, sont en contrat CAE, hein, voilà, qui sont plus présents sur le terrain, sur de l'animation d'activités.
Du côté des licenciés, il y a une particularité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette particularité?
Alors, nos sportifs sont tous atteints d'une déficience intellectuelle, hein, ou d'un trouble psychique. Donc, ils sont soit accueillis dans des établissements spécialisés, soit vivent en famille ou ma foi, de façon autonome dans leurs appartements. Et ils bénéficient ou non de prise en charge de type médico-social. Et ils viennent dans notre association qui a plusieurs formes, mais ils viennent cela essentiellement sur le secteur club de sport, pratiqué comme vous et moi, nous pratiquerions une activité sportive à la fin de la journée, après nos heures de travail. Voilà, l'autre particularité, c'est que le spectre est très large, hein, tant en termes d'âge, hein, c'est-à-dire que les plus jeunes de nos licenciés ont 7-8 ans, et les plus anciens sont retraités. Voilà. De la même façon, très hétérogène en termes de handicap, hein, puisque l'on a affaire à des personnes qui, pour certaines, viennent pratiquer avec leur vélomoteur ou leur voiture, donc avec une très bonne autonomie, et d'autres sont, peuvent être très dépendants et accueillis dans des établissements médicalisés.
D'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'il y a des conditions à remplir ? Est-ce qu'il y a une liste d'attente ? Parce qu'on sait que c'est souvent le cas dans des établissements spécialisés.
Alors, c'est souvent le cas dans des établissements spécialisés, médico-sociaux, qui prennent en charge, qui hébergent, qui prennent en charge la journée. Hein. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, on propose de l'activité physique, sportive, culturelle, de loisirs, de façon ponctuelle. Donc il n'y a aucun problème. En fonction de la demande, on va s'adapter et on va ouvrir des créneaux supplémentaires, développer de nouvelles disciplines. Voilà, aujourd'hui, il y a sept disciplines sportives et nous avons atteint les 200 licenciés. Mais nous sommes tout à fait ouverts et disposés à développer. On a le meilleur exemple est le secteur séjour-vacances, loisirs qui se développe. L'année dernière, nous avons proposé une quarantaine de semaines hein, sur l'année. Voilà ce qui ne se faisait pas, ce que nous ne faisions pas il y a quelque temps, mais qui... compte tenu de la demande à la fois de nos licenciés et de leurs familles, c'est peu à peu mis en place.
Comment est-ce que vous choisissez l'activité en fonction de la personne ? Est-ce que c'est vous qui la choisissez ?
Alors c'est très variable. Nous, ce que l'on a essayé de faire au départ, c'est de proposer un panel d'activités suffisamment large et qui couvre un petit peu ce que j'appellerais toutes les familles. Hein. Autrement dit, il va y avoir des sports individuels, des sports collectifs, il va y avoir des sports d'opposition, avec raquettes ou sans raquettes. Bon, voilà, toutes les familles d'activités sportives vont être représentées. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, plusieurs, les personnes qui pratiquent nous interpellent de façon assez différente. Certaines prennent une licence. Il faut savoir que la licence est omnisport. Donc elles peuvent tout à fait essayer plusieurs activités, puis à un moment donné trouver celle qui leur correspond et s'y inscrire de façon plus durable. On peut avoir également des personnes qui nous sont adressées sur indication, un médecin psychiatre d'un établissement qui estime que ce serait bien qu'un jeune homme, je pense à un jeune homme que l'on accueille, là, pratique un sport d'opposition de combat, parce que ça pourrait être profitable compte tenu des difficultés qu'il rencontre. Voilà, donc ça c'est très variable. De la même façon, la Fédération française de sport adapté, à laquelle nous sommes affiliés, propose des rencontres compétitives. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Certains de nos sportifs ont envie et pratiquent et veulent pratiquer en compétition. Donc nous, on s'attache à les préparer au mieux. Mais en réalité, il s'agit là d'un tout petit pourcentage parce que la grande majorité viennent pour prendre du plaisir et pour vivre une expérience sportive, sociale, de sport loisir tel que cela se fait de plus en plus aujourd'hui.
Il y a toujours un tabou sur comment on peut parler d'une personne atteinte d'un handicap. Alors, est-ce qu'on dit un handicapé mental ou une personne atteinte d'un handicap est-ce qu'il y a une façon bien de le dire pour pas créer de malaise ? Ou est-ce que le malaise vient justement de la personne qui se pose cette question ?
Oui, alors la façon dont on parle des personnes handicapées est très évolutive. Hein, au cours du temps, elle a beaucoup changé. Hein, donc, ce qui se passe, c'est que très régulièrement, l'Organisation mondiale de la santé ou l'ensemble des organismes qui s'interrogent sur ces questions-là nous indiquent quelle serait l'appellation la plus appropriée. Donc, nous parlons aujourd'hui de personne en situation de handicap, hein, la dimension personne en situation qui introduit cette dimension de contextuel, hein, c'est-à-dire que on se trouve en situation parce que l'on évolue dans un contexte particulier qui, autrement dit, s'il était différent, ferait peut-être de notre handicap un atout. Enfin voilà, hein, donc il y a cet élément qui est apparu, je ne sais pas exactement quand, mais c'est relativement récent. Voilà, hein, mais bon, après, je pense qu'on peut parler les choses assez simplement, quoi qu'il en soit.
Votre objectif sur votre site, et je vous cite, est de permettre à des enfants et adolescents et adultes en situation de handicap mental d'être valorisés à travers la pratique d'activités sportives et culturelles adaptées à leurs capacités. Alors, quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez pour pouvoir valoriser ces licenciés ?
Il n'y a pas vraiment de difficultés en définitive, parce que le support de l'activité physique, sportive ou culturelle a ce gros avantage d'être très adaptable. C'est-à-dire que l'on peut proposer des situations très appropriées aux aptitudes, aux capacités des personnes auxquelles on a affaire. Comme je le disais, notre objectif n'étant pas le résultat compétitif, mais la valorisation, ce à quoi on va s'attacher, c'est justement d'être attentif à ce que les situations pédagogiques proposées correspondent aux personnes et qu'elles puissent les réussir. Hein, c'est l'idée, c'est de proposer une mise en situation de réussite. On a tout de même affaire à un public qui, très souvent, pas toujours, mais très souvent, souffre de difficultés de type narcissique. Donc, ma foi, pouvoir être valorisé à travers une pratique que l'on a en dehors de l'établissement où on est accueilli, hein, où l'on vit au quotidien le stigmate du handicap, c'est quand même plutôt pas mal. On devient tantôt judoka, tantôt nageur, tantôt footballeur, et on réussit. En plus, on rencontre des copains, des copines, on intègre un nouveau cercle, que du plus.
Oui, une évolution normale pour eux, comme n'importe qui finalement.
C'est ça, c'est que de toute façon, cette idée de club sportif, sport adapté, qui nous est venue, je le disais, il y a 20 ans, elle relève très clairement de la rencontre d'une volonté politique. Les textes de loi indiquaient que l'accès à l'activité physique et sportive devait être offerte à tous. Ce n'était pas le cas tel que cela peut l'être aujourd'hui. Et puis, donc je dis la rencontre de textes législatifs et puis d'une évaluation des besoins. Nous étions des professionnels du secteur et nous mesurions très concrètement que pas mal de jeunes dont nous nous occupions avaient besoin très clairement d'une pratique régulière et ce n'était pas le cas.
Au sujet justement des pouvoirs publics, comment est-ce que vous jugez l'évolution des aides qu'ils ont apportées à votre structure ?
Alors, les aides ont pour certaines collectivités été présentes relativement tôt. Pour d'autres, elles se sont développées au fur et à mesure. Au fur et à mesure que l'association faisait la démonstration de son utilité. Voilà, ce qui peut paraître assez normal. Aujourd'hui, compte tenu du volume de l'association, en termes de licenciés, en termes de propositions, de développement de projets, ces aides sont évidemment très clairement, ça va être original ce que je vais dire là, très en dessous de nos besoins. Donc nous sommes obligés de travailler à développer des financements différents. C'est compliqué, ça mobilise beaucoup de temps et d'énergie, hein, que l'on préférerait mobiliser sur le projet lui-même. Bon, voilà, aujourd'hui, on est l'association, par son fonctionnement, génère plus de 50% du chiffre annuel, ce qui est très bien, hein, pour une association. Et malgré ce, on est toujours, pas toujours dans des situations faciles d'un point de vue financier.
On marque une pause. Nous retrouvons Cyril André, directeur de la MCSA, au micro de Romain Sost, notre journaliste en charge des sports, juste après ceci.
Un bouquet de fleurs à la main, il sort du magasin, il avance de bon cœur. Où va donc cette humeur qui porte un bouquet de fleurs? Où va donc cette humeur qui porte un bouquet de fleurs? Vers quel rencard, quel amant dans le placard, quel inconnu dans la toile entrevue, quelle fête des mères. Quel ami sincère, quelle moitié de vœux, quel amour qui flanche, quel drôle de cheveux sur sa manche. Où va donc cette humeur qui croit qu'on est dimanche? Où va donc cette humeur qui croit qu'on est dimanche? Un bouquet de fleurs à la main, il connaît le chemin, il avance de bon cœur. Qu'attend donc cette humeur qui porte un bouquet de fleurs? Qu'attend donc cette humeur qui porte un bouquet de fleurs? Quel genre de fête, quel anneau dans la tête, quel cœur qui bat, elle n'attendait que ça. Sur quelle blessure, quel trou dans un mur, pour quel adieu, pour décor et quel dieu, en vue d'assouvir quel désir. Qu'attend donc cette humeur qui est fait pour le plaisir? Qu'attend donc cette humeur qui est fait pour le plaisir? Cette humeur qui porte un bouquet de fleurs. Que cache donc cette humeur qui porte un bouquet de fleurs? Il marche pas vite, c'est pas des marguerites. Il presse le pas, c'est pas des camélias. Il marque une pause, il a pas pris des roses. Ses neurones agissent, c'est pas du cannabis. C'est pas le temps du tout des coucous. Que cache donc cette humeur qui respire avec nous? Que cache donc cette humeur qui respire avec nous? Un bouquet de fleurs à la main, il sait trop le chemin, il va rentrer chez lui. Pourquoi donc cette humeur s'est acheté des soucis? Donc cet humain s'est acheté des soucis.
Bienvenue, si vous venez de vous joindre à nous, retrouvez Romain Sost, notre journaliste en charge des sports à FM+. Il est toujours en compagnie de Cyril André, directeur de la MCSA, Montpellier Culture Sport Adapté. Dans cette seconde partie, nous pouvons voir que cette association locale arrive à convaincre des partenaires privés pour financer certains projets. Cyril André nous parle également du regard porté sur les personnes en situation de handicap, une évolution, une inclusion des licenciés au sport adapté qui participent de plus en plus à différentes manifestations associées à d'autres organisations sportives. Il évoque par la suite les projets en construction pour 2017. Et c'est au micro de Romain Sost.
Vous arrivez à trouver des partenaires privés parfois ?
Alors cela arrive, hein. Nous avons... C'est assez difficile parce que nous sommes une association locale. Voilà pourquoi je dis ça, parce que les partenaires privés dans notre secteur s'intéressent plus facilement à des structures nationales, je vais dire. Voilà, mais on a toutefois réussi à certains moments à développer des partenariats. Je pense notamment il y a 5 ans, 4 ou 5 ans, à la possibilité de l'achat d'un véhicule 9 places, qui était un élément essentiel dans un moment donné en termes de développement, d'étape de développement pour notre structure. Véhicule qui avait été financé en partie par la Fondation Veolia Environnement et la DDCS.
Tout à l'heure, vous nous parliez de l'évolution des mots des gens pour définir les personnes en situation de handicap. Qu'en est-il du regard porté par les personnes valides ?
Alors c'est difficile, ça m'est difficile de parler de ça parce que j'ai pas le sentiment d'avoir un regard vraiment là-dessus. Je colle un peu aux situations, donc je manque de recul quoi. Pour pouvoir évaluer la façon dont le regard est porté sur les personnes en situation de handicap. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que c'est qu'en 20 ans, la question que l'on appelait au départ de l'intégration, que l'on va appeler aujourd'hui plutôt inclusion, a beaucoup évolué. Et alors que c'était extrêmement difficile que de mener des partenariats, comme je le disais tout à l'heure, avec des clubs, ou de monter des projets associés à des organisations existantes, aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Alors, c'est pas simple. Il y a, lorsque l'on tente de trouver des partenaires, on se heurte parfois à des refus plus ou moins directs. Mais en persévérant, on arrive tout de même à trouver des clubs avec qui on peut développer cette idée d'inclusion. Idée qui demande justement à ces clubs ordinaires de se mettre dans une posture qui permet aux personnes en situation de handicap d'être accueillies.
Est-ce que vous avez des sportifs de haut niveau dans votre structure ?
Alors, des sportifs de haut niveau, parmi nos sportifs licenciés, non, ça pourrait, puisque certains sportifs relevant de la fédération Sport Adapté participent aux grandes compétitions internationales aux côtés des sportifs handisport au sein de la fédération paralympique. Il y a un certain nombre de sportifs de haut niveau sport adapté. Il y en a notamment un à Perpignan. Voilà, mais nous ne sommes que relativement peu sur ce registre. Comme je vous le disais tout à l'heure, la question de la compétition ne nous intéresse pas de façon prioritaire. C'est-à-dire que nous soutenons ceux qui souhaitent, encore une fois, être dans cette dynamique-là. Mais ça ne fait pas partie de nos objectifs que d'obtenir des résultats. Moi-même, président de l'association, des fois j'ai un petit peu honte parce que je suis incapable de rendre compte des performances qu'ont pu avoir un certain nombre de nos sportifs, de nos équipes. Voilà. Mais cela pourrait être tout à fait... Enfin, si la question est-ce que nos sportifs ont les moyens de grosses performances, la réponse est oui, évidemment, il n'y a pas de raison. Par contre, vous parlez de sportifs de haut niveau, ça me donne l'occasion de saluer Michael Guigou, qui est notre parrain depuis maintenant plus de 5 ans, et qui est en train de se préparer. J'ai vu qu'il faisait partie du groupe France. Et il va donc disputer les championnats du monde de handball en France. Donc ça va être un événement intéressant. Et nous ne manquerons pas, avec nos sportifs, d'aller le supporter dès que nous en aurons l'occasion.
Et lui, Michael Guigou, vient parfois supporter les équipes de l'association ?
Ah ben oui, on a la chance de pouvoir compter sur un vrai parrain. C'est-à-dire un sportif de haut niveau avec beaucoup d'humilité qui a de par sa, sa carrière, sa posture en tant que sportif fait déjà la démonstration de ses valeurs. Mais, il va un petit peu plus loin en nous soutenant. Nous, comité directeur, lorsque un petit coup de pouce d'un personnage médiatique peut permettre d'ouvrir certaines portes, et puis nos sportifs qu'il vient visiter très régulièrement et dont certains avec qui il peut avoir même des relations amicales, puisque comme cela fait plus de 5 ans qu'il les connaît et donc il les change régulièrement au sujet des activités, de leur activité sportive, mais pas seulement, avec quelques-uns de nos sportifs. Oui.
Et en Lucette, qui garde la forme pour ce mondial, qui ne se blesse pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2017, votre objectif principal ?
Alors, on a pas mal de projets en route. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'un maximum d'entre eux puissent aboutir. Alors, nos projets, comme toujours, ils sont en lien avec les besoins que l'on a pu identifier, les demandes. Le premier, il concerne la question de la formation. Donc on s'intéresse un peu assez particulièrement à la question de la formation des travailleurs d'ESAT. Hein, vous savez qu'un certain nombre de personnes en situation de handicap mental travaillent dans des structures de type médico-social. Voilà, aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est que ces personnes puissent utiliser cette expérience dans les ESAT comme un tremplin vers, pourquoi pas, un emploi en entreprise ordinaire. Bon, il y a un certain nombre de difficultés, évidemment, à surmonter, d'obstacles quelquefois. C'est pour ça que l'on va, en 2017, proposer un programme de formation relatif à la question du savoir-être. Parce que vous comprendrez que nous, la question du savoir-faire, des techniques professionnelles, ce n'est pas de notre registre. Mais par contre, pour ce qui est du savoir-être, et pour ce qui est de s'appuyer sur un certain nombre de supports que l'on connaît bien, que sont les activités physiques ou culturelles d'expression pour améliorer la façon dont on peut être dans la relation, s'adapter à des situations nouvelles ou autres, hein, il y a des tas d'éléments. Là, je pense que l'on a un rôle à jouer. Voilà, c'est pourquoi on va faire ces propositions en 2017. Et puis l'autre projet assez important, c'est, vous l'avez peut-être vu récemment, le Parlement vient de promulguer une loi qui indique qu'à partir du 1er mars, les médecins pourront prescrire de l'activité physique à des personnes atteintes d'un certain nombre de maladies précises. Donc voilà, ça c'est un pas majeur quand même dans l'évolution de la façon de traiter la question de la santé, d'une façon générale en France. Une approche plus préventive là que curative, c'est-à-dire prescrire de l'activité physique afin de prévenir d'éventuelles difficultés en termes de santé. Donc là, de la même façon, nous allons travailler sérieusement, précisément, à pouvoir accueillir un certain nombre de personnes qui nous seraient adressées avec des indications précises quant au développement de leur bien-être. Voilà.
C'était un reportage de notre collègue Romain Sost, nouvelle recrue à FM+, en charge des sports. Nous lui souhaitons la bienvenue. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire Montpellier, ma ville. Bye bye.